Michel Pelège, bonjour.
Bonjour Didier Testo,
Vous êtes,
un
oui.
grand plaisir que je vous revois après de
Et
nombreuses années.
voilà, on parlera du XXe siècle peut-être à la fin de l'interview.
Si vous voulez, oui.
Alors, en tout cas, ce qui reste, hein, c'est quand même votre passion pour l'immobilier, puisque aujourd'hui, on va parler du groupe Pelège et de toutes vos activités. Ça ne vous a pas quitté. L'immobilier, vous dites d'ailleurs que ça reste une valeur favorite des Français. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'immobilier encore aujourd'hui?
Ben écoutez, tout est à faire. On le sait bien d'ailleurs. La passion de l'immobilier, c'est une passion d'activité, d'entreprendre, de construire d'une certaine manière, d'être un bâtisseur. Et je l'ai été toute ma vie, j'ai essayé de l'être toute ma vie. Et c'est vrai que j'avais monté une société de promotion qui était très très importante, puisqu'elle est allée à plus de 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui était considérable dans les années 90. Puis l'immobilier tel qu'on conçoit aujourd'hui est quand même un tout petit peu différent. On prend moins de risques. Et moi, je suis toujours autant passionné, mais par tout l'immobilier. Pas uniquement la promotion, mais ça peut être aussi bien l'administration de biens, une foncière, ça peut être aussi des développements de zones, effectivement. Donc, c'est un métier passionnant. Et au fond, je ne suis pas très différent de la majorité, sinon de la totalité des Français, qui ont toujours un certain amour pour la pierre.
On voit beaucoup de promoteurs qui effectivement se sont diversifiés. Qu'est-ce qu'on apprend des crises? Parce qu'il y en a eu quelques-unes en France. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on voit quand même l'immobilier au plus haut, mais on se pose des questions quand même sur ses prix. Mais les promoteurs en général se portent pas trop mal, en tout cas les plus importants d'entre eux.
Oui, mais c'est vrai. Simplement, tout récemment encore, dans les années 2008-2009, il y a eu une crise. Et on a bien craint aussi qu'un certain nombre de promoteurs connaissent encore eux aussi des difficultés très semblables à celles qui avaient été rencontrées dans les années 90. La plus grande crise, c'est quand même la crise de 90, 92, 93, qui s'est prolongée. Il a fallu attendre pratiquement 1996 ou 97 pour établir des prix qui étaient voisins de ceux qu'on avait presque 10 ans avant. Donc la crise a appris de la crise. La crise est une accoucheuse, c'est bien connu. Et les promoteurs actuels fonctionnent bien, d'abord parce que le marché est bon, parce qu'il y a d'énormes besoins, parce que les Français ont toujours le goût de la pierre, et aussi parce que les méthodes ont changé. À l'époque, on lançait des opérations, on montait les tours de table. Maintenant, c'est différent. On fait une pré-commercialisation. On attend d'avoir commercialisé 40, voire 50% de l'opération avant de la lancer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le risque qu'il y avait à ce moment-là. Voilà. Mais ceci étant, le métier restait le même.
Est-ce qu'il n'y a pas la nouvelle génération quand même qui se pose des questions? On parle d'eux en disant ils vont plus acheter de voiture, l'immobilier finalement, ils vont prendre d'autres dispositions.
C'est vrai, on peut le penser. D'ailleurs, je crois que c'est pas absurde d'imaginer que le monde a beaucoup changé, que l'écologie est là, qu'il y a des préoccupations, transition écologique, etc., d'évolution, comment dirais-je, du risque inhérent à notre planète, qui subit beaucoup de douleurs liées aux attaques des hommes. Et c'est vrai que le monde a changé sur ces plans-là. Alors la jeune génération, bon écoutez, comme toute génération, le monde change, mais l'homme reste identique à lui-même. Le monde change, bien sûr, mais l'homme aura besoin toujours de se loger. Le loger, c'est une préoccupation majeure, avec manger, se loger, loger sa famille. Et actuellement, des grands problèmes de la France, c'est que les problèmes ne sont pas réglés. Il y a des besoins considérables de logements qui ne sont pas réglés, et avec la création du Grand Paris, il va bien falloir avoir une politique d'urbanisme, de construction de logements, d'environnement, qui soit menée à bien pour régler tous ces problèmes. On ne peut pas laisser des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Français, de Franciliens ou d'autres grandes villes vivre dans des conditions qui sont des conditions qui ne sont pas du 21e siècle.
Alors c'est vrai qu'on l'entend depuis de nombreuses années, ce manque de construction. Vous qui êtes dans cet environnement-là, vous pourriez avoir peut-être une explication. Qu'est-ce qui empêche qu'on ait construit après-guerre, depuis, on va dire, c'est quasiment depuis après-guerre, qu'on n'arrive pas à construire suffisamment de
Il y a
logements?
eu différentes périodes, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a les périodes des années 1960, on a construit beaucoup pour faire face au retour des Français d'Algérie. Il y a eu d'autres périodes où on a essayé de construire. Et puis, c'est vrai que la construction, un, ça coûte cher. Deux, pour construire, il faut des terrains. Trois, il faut avoir des procédures qui soient des procédures qui permettent, qui facilitent la construction. Dans une vie un peu antérieure, j'avais fait une thèse de droit. Je suis docteur en droit grâce à cette thèse. Elle portait le joli titre d'essai sur la liberté de construire en droit français. Et La liberté de construire en France, elle est évidemment jugulée à juste titre. Hein. L'urbanisme fait partie de la politique de la ville, mais c'est vrai qu'obtenir un permis, c'est une course sans fin. À tout moment, si je vous racontais les difficultés qu'on a eues sur certains permis, les bâtiments de France, le Vieux Paris, on nous a même demandé, d'ailleurs c'est une heureuse chose, sur une opération qu'on a faite avenue Mozart, de garder ce qui était là, l'enveloppe du garage qui était là, et de la reproduire, de la replaquer sur un immeuble en construction qu'on a fait, ce qui fait que les fenêtres de l'habitation sont derrière cette enveloppe garage. Donc vous savez, il y a des contraintes, on multiplie les contraintes, moyennant quoi le coût de la construction est de plus en plus cher. Les délais pour réaliser sont de plus en plus longs. Entre l'instant où vous commencez à acheter un terrain, et l'instant où vous livrez l'appartement, il faut 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai que des mesures devraient être à prendre, d'une part, pour pratiquement dégager les procédures inutiles, complètement libérer la construction d'une certaine manière, il faut la libérer. D'autre part, il faut aussi, c'est indispensable, trouver des terrains, il y en a. Et ces terrains-là, il faut aussi faire en sorte qu'ils puissent être construits. Les besoins de la construction, c'est essentiellement pour des besoins de logements sociaux. Mais maintenant, c'est les classes moyennes. Paris, aujourd'hui, n'est plus peuplé que de professions libérales, voire de hauts fonctionnaires ou de cadres d'entreprise. La population d'origine de Paris, telle que j'ai connue là aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, elle n'est plus là. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait normal. Et il faut absolument avoir une politique de l'urbanisme qui soit à la fois une politique sociale et financière saine et qui aboutisse à des résultats, qui soient des résultats concrets. On dit qu'il fallait 500 000 logements, je ne sais pas s'il en faut 500 000. Le nombre n'est pas là. Mais il en faut certains, un certain nombre de milliers à construire là où il y a des besoins.
Vous parliez de logements sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui on sait construire des logements sociaux de qualité?
Oui, mais bien évidemment. Les bâtisseurs aujourd'hui savent construire. Ils ont les méthodes modernes. Maintenant, vous savez, mes amis développent la construction en bois. Et pourquoi pas aller développer aussi ce type de construction? Donc on sait construire. Simplement, les blocages administratifs, construire dérange. Toute collectivité locale, tout maire, quand il voit construire, ça le dérange d'une certaine manière. Donc il faut faciliter les choses et il faut qu'il y ait une psychologie aussi qui comprenne que le problème du logement, il n'y a même plus de mystère du logement en ce moment. C'est pas grave. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de mystère et qu'on construise plutôt qu'on ne construise pas avec un ministre. Mais il n'empêche que c'est quand même révélateur que le logement n'apparaît plus comme une affaire d'État.
Alors vous parliez du XXe siècle, une autre époque. Le Michel Pelech qu'on a connu à l'époque, qui faisait des batailles boursières,
Oui.
il est où celui-là? C'est dans ses souvenirs, les batailles boursières?
Si vous voulez, je considère que le métier de promoteur n'est pas forcément un métier adapté à la bourse, parce qu'il est lié à des cycles de production. Et lorsque j'ai fait en sorte que ça a été la première société cotée en bourse, la SMCI, ma société de l'époque, soit cotée en bourse dans les années 90, reprenant d'ailleurs une société qui était cotée en bourse, la Bourse de Marseille. La Bourse de Marseille était supprimée, on s'est trouvé de facto cotée à la Bourse de Paris. Eh bien, le fait d'être cotée en bourse, ça a eu un effet multiplicateur. Lorsque la crise est arrivée, les prix des appartements baissaient, la bourse baissait. Lorsque la bourse baissait, ça faisait baisser l'immobilier. Donc, c'était pratiquement un cercle infernal. Et d'ailleurs, on l'a revu, cette crise, en 2008. Je ne vais pas citer le nom de promoteurs, amis, qui ont vu leur cours de l'action se descendre en flèche. Pour les mêmes raisons. La bourse étant mauvaise, l'immobilier était, etc. Donc, je ne suis pas sûr que la promotion en tant que telle soit un métier qui soit bien, ou plus exactement que la bourse, ou bien adapté à ce métier-là. Donc, actuellement, avec le groupe Gères Développeurs, on m'a demandé, un banquier récemment est venu me trouver en me disant, allez, revenez en bourse. Je lui ai dit non, merci. J'ai déjà donné et je n'ai pas envie de me retrouver dans ce cycle infernal.
Alors, j'ai vu que dans les activités aussi, vous développiez la gestion de patrimoine, la gestion de
Oui.
fortune. C'est lié à quoi? C'est parce que justement cet immobilier doit faire partie d'un patrimoine et doit être géré comme, de manière peut-être comme la bourse, c'est-à-dire peut-être plus régulière?
Je crois que votre question montre que vous avez bien compris ma démarche. En fait, le groupe que j'ai monté est un groupe totalement cohérent, puisque d'un côté, vous avez l'administration de biens, vous avez la promotion, vous avez une foncière qui permet de posséder des immeubles, vous avez le courtage d'assurance, tous les métiers sont là de l'immobilier. Et il manquait un point important, c'est-à-dire ce qui est développé actuellement, c'est la défiscalisation. Donc on vient de se mettre à disposition un outil de défiscalisation qui s'appelle Excel Finance. qui est un outil agréable, qui fonctionne bien, qui vend du Pinel, qui vend des parts des CPI, qui fait du démembrement de copropriété, de l'assurance vie, etc. Et qui, d'autre part, a un développement qu'on va essayer d'accélérer pour justement apporter un élément supplémentaire à toute personne qui souhaite investir, défiscaliser, etc., nous puissions apporter un produit. Et la prochaine étape, peut-être, celle-ci, elle est faite. La prochaine étape, c'est puisqu'on est dans la gestion de patrimoine, c'est d'aller vers la gestion de fortune. On a eu quelques contacts, et c'est vrai que c'est un métier qui me passionnerait, et qui serait très complémentaire à ce que nous faisons, puisque nos clients nous font confiance, certains depuis des dizaines d'années, et qu'effectivement, on pourrait continuer à les accompagner dans d'autres domaines. Donc peut-être que si nous nous revoyons dans un an, je vous dirais qu'on a repris avec une conciergerie peut-être, et qu'on a repris peut-être un family office, ou bien une structure qui va vers la gestion d'actifs. J'en ai étudié une récemment, elle était trop chère, a plutôt été rachetée par une banque, mais si vous en connaissez une, puisque c'est votre métier que vous voyez du monde, appelez-moi, peut-être je serai intéressé pour la prendre.
Eh bien, on regardera ça. Merci Michel Pelège.
C'est moi qui vous remercie Didier de cette interview qui est très sympathique et qui me permet de situer un peu ma philosophie, ma stratégie plutôt actuellement. Merci beaucoup.